L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Dan Serfati, co-président du Kerenayasa de France, association reconnue d'intérêt public qui mène des programmes sociaux en Israël en direction de la jeunesse, des survivants de la Shoah, des migrants éthiopiens et plus récemment ukrainiens. Cette association a été créée il y a plus de 100 ans, en 1920 précisément, à Londres, pour financer le retour du peuple juif en Israël. Dan Serfati, bonjour.
Bonjour.
Alors en quelques mots, hein, là c'était les actions que mène le Keren Hayasod en Israël. Évidemment, c'est pas exhaustif, hein, vous intervenez sur beaucoup de domaines. Alors aujourd'hui, les valeurs du Keren Hayasod, illustrées par Tikkun Olam, réparer le monde, ces valeurs-là sont plus que jamais d'actualité depuis le 7 octobre.
Oui, tout à fait. Non, je crois que vous l'avez bien dit, on a vocation globalement le Keren Hayesod en tant que... Vous parliez de 100 ans, c'est pas juste 100 ans. Nous sommes l'organe officiel de collecte pour Israël et nous le sommes restés. C'est-à-dire que l'existence du Keren Hayesod est régie par une loi de la Knesset. C'est la seule association qui a ce statut quasi officiel. Et le travail du Keren Hayesod, c'était, j'allais dire, jusqu'au 7 octobre, c'est plus compliqué que ça, mais si je devais simplifier, c'était tous les programmes que vous évoquiez, qui visent globalement à réduire la fracture sociale en Israël, aussi la Aliyah, puisque c'est nous qui finançons l'agent juif dans tous les pays du monde, nous sommes présents dans plus de 46 pays dans le monde. Et donc la Aliyah, et trois, les liens entre la diaspora et Israël. Depuis le 7 octobre, j'allais dire que tout cela a été presque bouleversé, puisque, et c'est vrai que c'est aussi notre force, on a orienté quasiment la totalité de nos programmes, de nos soutiens, de nos levées de fonds partout dans le monde, autour de l'aide aux victimes du terrorisme, en particulier du 7 octobre. Alors l'aide aux victimes en direct, c'est-à-dire que nous avons par exemple mis en programme, je crois qu'il était opérationnel le 9 octobre, donc deux jours après, où on donnait 1200 euros à chaque famille qui avait été touchée, de manière à leur permettre juste de manger, de faire vivre leurs enfants immédiatement. Donc, ça nous a été possible parce que on a cette présence depuis 100 ans et qu'on a des liens, bien évidemment, à travers tous ces programmes sociaux que vous évoquiez tout à l'heure. On a des liens partout en Israël et on a pu mettre en place ces aides immédiates, je dirais de façon extrêmement efficace, extrêmement rapide. On a pu donner par exemple de l'argent, on a organisé avec des mairies, avec des conseils régionaux, mais extrêmement rapidement parce qu'on les connaît, on travaille avec eux toute l'année. Et là, on a simplement réorienté nos efforts vers cette aide aux victimes grâce à ce fonds d'urgence qu'on a appelé un fonds d'urgence pour les victimes du terrorisme.
Alors justement, que sont devenus les survivants de ces kibboutzim, Reim, Kfar Azar, ou Berry, etc. Vous les avez rencontrés, alors vous étiez avec une délégation sur place, et puis vous le disiez, Keren Hayesod est très présent sur place. De quoi ils ont besoin? Alors évidemment d'un soutien psychologique, ça on entend que ce sont des gens qui doivent être meurtris à vie, mais plus urgemment, ils avaient besoin de manger, de se vêtir,
absolument,
de se chauffer peut-être.
Absolument, parce que ce sont des gens qui ont... C'est comme si on vous disait, vous n'avez plus de maison.
Oui.
Et bon, je fais quoi? Je fais comment pour d'abord trouver un toit? Et ensuite, une fois que j'ai un toit, il faut que je mange. J'ai des enfants. Puis au bout d'un certain temps, ça fait quand même plus de 6 mois. Ça passe tellement vite. J'ai plus de 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait avec l'école? Qu'est-ce qu'on fait avec quand quelqu'un tombe malade? Et donc, ce sont tous ces besoins, j'allais dire, primaires.
Oui, bien sûr.
Qu'il a fallu avant tout, auquel il a fallu avant tout répondre. Et je dois dire que les communautés juives dans le monde ont été présentes, hein, c'est incontestable, c'est extraordinaire. Le mouvement, l'élan qu'il y a eu suite au 7 octobre, et en particulier en France. On l'a senti, et c'est grâce à tout cet argent qui a été levé, en particulier par le Keren Hayesod, pour aider ces familles, qu'on a pu très concrètement leur donner, eh bien, alors les logements, très souvent, c'était le gouvernement, donc c'est le gouvernement israélien qui avait organisé ça. Mais il y a eu aussi, vous l'avez peut-être lu comme moi, des propriétaires qui ont mis à disposition leurs logements de façon gratuite pour pouvoir loger ces gens-là. Et nous, nous étions là pour le reste, ben, leur donner de l'argent. Vous avez parlé de soutien psychologique, c'est essentiel. Et donc, c'est sur ces sujets très opérationnels, très pratiques, que le Keren Hayesod était présent. Maintenant, il y a un élément qui me semble très important. Vous l'avez dit, j'étais effectivement, je reviens, il y a 15 jours, d'un voyage organisé par le Keren Hayesod, où nous avons emmené des donateurs, des bénévoles du Keren Hayesod. Presque un voyage, je vais dire, mémoriel. On est allé à Berry. Ce qui est très difficile, hein, aujourd'hui,
oui, j'imagine,
ils ne veulent plus recevoir des gens, mais on a pu, ben, grâce aux relations justement du Keren Hayesod, on est allé à Sderot et on a rencontré, c'était assez dingue, parce qu'on a rencontré, non seulement on a pu voir, en ce sens que je dis mémoriel, pardon, on a pu voir ce qui s'est passé, parce qu'on l'a lu, on l'a entendu, on le suit sur les journaux, sur les radios, partout à la télé, etc. Et le voir, c'est un impact incroyable. Donc on voit un jardin d'enfants à Berry, énorme, énorme, où il y avait tous les enfants du kibbutz qui étaient là. Et là, ce sont des ruines. Et on vous dit, là, il y avait 150 terroristes qui étaient là, avec leurs armes. Et en plus, c'était doublé de témoignages en direct de familles victimes. Il y a un gars qui nous racontait que son frère était là avec son ami, et les deux, ils étaient devant un dispensaire, la pharmacie en quelque sorte, qui était en face de cet endroit où se trouvaient les enfants, et donc les terroristes, et qu'ils ont tenu pendant 6 heures. À deux, ils ont retenu 150 terroristes. Et finalement, ils sont morts, les deux. Et c'est le gars qui nous raconte ça de son frère. C'est... Juste le dire comme ça, j'en ai des frissons de nouveau. Mais c'est... Donc...
Et les choses sont dans leur état aujourd'hui sur place. Rien n'a été bougé pour l'instant. Alors on va en parler un peu plus tard. Vous allez mettre en place un programme de reconstruction. Mais aujourd'hui, il y a une phase, vous le dites, il y a une phase mémorielle pour l'instant. Il faut aussi, et je pense qu'il y a également une enquête et des relevés très précis qui doivent être faits, peut-être qui sont déjà faits.
Qui sont en train d'être faits, absolument. Mais là, c'est en l'état. Alors, il y a des choses qui ont changé un petit peu, c'est sur le site du festival de Nova, où nous étions aussi.
Oui.
Alors là, c'est, vous avez l'impression d'entrer à Auschwitz, quoi. Vous avez des drapeaux partout, individuels, un drapeau israélien avec une photo de tous ces jeunes. Ça, c'est juste... Et c'est vraiment dans une logique, je pense, de mémoire. Il ne faut plus jamais oublier ce qui s'est passé. Jamais l'oublier. Et ça, c'était la première... première mission qu'on avait sur ce voyage-là.
Vous avez, ce sentiment de, justement, de devoir mémoriel ? Vous avez quelque chose au fond de vous qui se révolte et qui a envie, justement, de crier au monde, mais regardez, en fait, parce que c'est très compliqué, c'est aujourd'hui, ce sujet. Il reste toujours très clivant, et dans les médias.
Bien sûr. Et quand vous êtes sur place, vous dites, mais c'est incroyable qu'un tel sujet puisse être clivant. C'est juste incroyable, c'est pas possible que ce soit clivant, c'est tellement évident, c'est tellement... d'un côté, il n'y a pas de façon de voir ces horreurs-là, il n'y a pas, et ça, effectivement, quand on va sur place, et encore une fois, je suis comme tout le monde, je suis scotché aux news, j'écoute la radio en permanence, la télé, etc., mais quand on est sur place, on se dit, c'est pas possible que le monde ne hurle pas tous ensemble contre ce qui s'est passé. C'est pas possible qu'on cherche des excuses, des raisons, des... Bon, alors après, voilà, on est dans ce débat politique.
Effectivement, le 8 mai est intolérable quand on est devant ces photos de toutes ces victimes, ces jeunes victimes, qui plus est. Après, il n'y a pas de victimes qui ont plus d'importance que d'autres, que ce soit des gens plus âgés, mais effectivement, et des bébés, des femmes enceintes, et des jeunes qui faisaient la fête avec des idées politiques de réelle ouverture.
Absolument, absolument, c'est ça qui est dingue. On nous racontait, on a rencontré donc des familles de survivants, on a rencontré une famille qui était... la maman était otage, elle était avec ses trois filles. La maman était otage, elle a été libérée, son mari est toujours otage. Et ce sont des gens de, on pourrait dire, complètement de gauche. Complètement ouverts, type Shalom Arshav, type la paix maintenant, type... ces gens-là qui ont été frappés.
Waouh. C'est le paradoxe quand on entend justement aujourd'hui en France et peut-être ailleurs en Europe également qu'il y a toute une population qui se dit très 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 à gauche, qui aujourd'hui remet en cause et qui effectivement évoque un 8 mai après ce pogrom du 7 octobre.
Oui, c'est ça. Mais en tout cas, le...
Revenons à votre association.
Ouais. Parce que ça veut dire que c'est un sujet tellement chaud que... Mais bon, je dirais que nous, en tant que Keren Hayesod, on essaie justement de ne pas faire de politique et de se focusser sur les besoins de ces gens-là. Et il y a une chose que j'aimerais rajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est, je ne sais pas si on s'en rend bien compte, quand on est en France et quand on est à l'étranger, même si on a de la famille en Israël, c'est que ils ont besoin de notre soutien, mais pas seulement financier. C'est-à-dire que le soutien financier, en l'occurrence, c'est la traduction du fait pour eux, c'est
bien
la
sûr.
Traduction du fait qu'on est avec eux. On est à côté d'eux. Et c'est, pourtant, ils sont résilients, parce que ça n'arrête pas quand même, hein.
Oui.
Il y a toujours 150 otages, il y a toujours la guerre à Gaza, il y a toujours les attaques du Hezbollah, il y a toujours la menace iranienne. On a eu un samedi horrible il y a 10 jours. Donc ça n'arrête pas. Mais quelle résilience ce peuple, quelle force.
Et c'est cette vous le disiez, cette unité, cette diaspora, partout dans le monde aujourd'hui, qui témoigne de son amour, de cette solidarité, peu importe les opinions politiques. C'est au-delà de ça aujourd'hui.
Absolument.
Le peuple se reconnaît comme un, de par, on va dire, de par cette date du 7 octobre, malheureusement, qui aura aujourd'hui et généré cette solidarité de par le monde, dont le Keren Hayesod partout. Où elle a ses antennes en Europe.
Absolument, en Europe, en Amérique latine, partout. On est présent. En fait, il y a deux grands organismes dans le monde officiels par rapport à Israël, c'est le Keren Hayesod pour tous les pays du monde hors États-Unis. Les États-Unis sont gérés un petit peu à part. Mais en tout cas, nous, on peut témoigner, je peux témoigner parce qu'on se parle régulièrement avec les présidents des campagnes des différents pays dans le monde. Il y a un mouvement formidable. Mais ce qui est dingue, c'est que on ne se rend pas bien compte, ça a un impact. Les gens avaient les larmes aux yeux, les victimes avaient les larmes aux yeux quand ils nous voyaient déambuler dans Berry à leur côté, parce qu'ils disaient « heureusement que vous êtes là ». C'est-à-dire qu'on nourrit leur force et leur résilience. Ils sont forts, ils sont résilients, c'est incontestable. Mais cette force et cette résilience, elle est nourrie par ce soutien presque... C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est inconditionnel en ce moment, ça l'est, on peut dire, je crois, inconditionnel en ce moment, de la diaspora juive partout dans le monde. Ils ont besoin de ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts et résilients, au contraire. C'est grâce à ce soutien qu'ils sont aussi forts et aussi résilients. Et c'est eux qui le disent, hein, c'est vraiment, c'est pas moi.
Ces survivants, ils vont revenir dans les kibboutzines après la reconstruction, donc vous allez mettre en place un programme hein, pour la reconstruction des kibboutzines. Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'ils en parlent? Ou est-ce que c'est totalement exclu?
C'est une question qu'on a posée à chaque fois.
Oui.
Pendant le voyage. Et je dois dire que les réponses étaient assez différentes. Assez différentes. Il n'y avait pas de réponse unanime, en fait. Il y en a qui disaient, j'attends qu'une chose, c'est qu'on nous donne les moyens de reconstruire pour revenir. Parce que c'est chez moi ici.
Oui.
Il y en a d'autres qui disaient, je ne crois pas qu'on sera capable, avec ma famille, de revenir. Et d'autres qui y sont déjà.
D'autres qui y sont retournés.
Ils sont retournés. Alors, ils vivent pas forcément dans le kibboutz, mais ils vont vivre à Sderot, par exemple.
À proximité,
voir tous les jours, aller au kibboutz.
Oui, parce que
donc,
c'est...
Y en a qui sont... donc,
au-delà d'un habitat, temps. C'était une façon de vivre également, de partage.
Mais c'est sûr. Bien sûr, c'est pas juste une maison. Ces gens-là, ils peuvent pas être heureux, ils seront jamais heureux dans une ville avec des tours partout. Faut voir ce que c'était. Franchement, quand on est à Berry et quand on a, au-delà des destructions qu'il y avait à l'intérieur du kibboutz, l'endroit est paradisiaque. C'est incroyable. Il y a de la nature partout, il y a du vert. C'est dingue ce que ces gens ont fait. Je comprends que se dire, bon, je fais quoi? Je vais où? Je vais habiter dans une banlieue de Tel Aviv?
Dans un immeuble, c'est compliqué.
Ouais.
C'est évidemment compliqué.
Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas de réponse, unanime. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est chaque famille de victimes avait une réaction qui pouvait être un petit peu différente. Ce qui est quand même commun à tous, et ça fait une grosse différence. Parmi les gens du voyage, il y avait une ou deux personnes qui avaient déjà fait un voyage il y a 3 ou 4 mois. Et ils nous disaient que, dans le même type d'endroit, et ils nous disaient que... Il avait senti une atmosphère très différente dans le sens où, il y a 3-4 mois, tout le monde était dans le désespoir, en fait.
Oui.
Et là, on sentait quand même, et ça, moi, je l'ai vraiment senti avec tous les gens qu'on a pu rencontrer, on était dans, j'allais dire, presque l'espoir. OK, c'est quoi le futur? C'est quoi la suite? Maintenant, on fait comment? Et c'est là où, effectivement, et vous le disiez tout à l'heure, Valérie, nous, Kerem et Essod, maintenant, c'est pas encore complètement le cas, parce qu'il y a encore malheureusement énormément de victimes de qui il faut prendre soin, mais on va rentrer dans une phase, j'espère bientôt, de reconstruction, pour les quelque part les renforcer encore dans cet espoir. Mais les gens commencent à être tournés vers le futur, vers « ok, c'est quoi après ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Comment on va faire maintenant ?» Ce n'était pas le cas il y a 3 mois.
Donc c'est une façon d'apporter de l'espoir aussi, d'être sur place et puis de donner ses moyens. Vous, à votre niveau personnel, Dan Serfati, vous avez eu peur quand vous étiez sur place?
Non. Non, vraiment. Je pense que ma femme et mes filles qui étaient restées en France avaient un peu plus peur. Et en plus... Un jour, j'avais pas mon téléphone. Une matinée, j'avais pas mon téléphone et du coup, c'était grosse panique. Elle a appelé partout en se disant que. Mais sur place, non. Ça fait bizarre d'entendre les roquettes et les sirènes. Je veux dire, c'est pas comme quand on a l'alerte sur son téléphone qu'il y a eu une roquette ici ou à droite ou à gauche. C'est bizarre, mais moi, j'avais pas. Je pensais pas à ça, quoi.
Vous avez confiance, en fait.
Absolument. Vraiment. Et tout de suite, ils nous ont dit, ce sont nos roquettes. C'est nous qui tirons. En particulier, quand on était sur le site de Nova, on les entendait souvent. Et ils nous disaient, non, mais c'est nous, ne vous inquiétez pas. Ça m'a pas stressé. Moi, j'y étais pas samedi dernier. Hein. Je sais pas si j'aurais dit la même chose, mais...
Oui, bien évidemment.
C'est ça.
J'ai encore une... question liée à Israël, mais plutôt par rapport aux réseaux sociaux, la haine en ligne, aujourd'hui, les critiques, le côté clivant, le 8 mai, j'allais dire, on est proche de la propagande liée à Israël, parce que, évidemment, c'est la politique d'Israël qui est fortement critiquée, et également En mettant en lien des faits historiques qui ne sont pas justes, donc on appelle ça tout simplement de la propagande. Comment est-ce que vous gérez ça, vous, au Keren Hayasod?
Alors, encore une fois, nous, notre mission, elle est d'abord c'est un petit peu ce que je vous disais au départ, hein, essentiellement dans la réduction de la fracture sociale. On n'est pas un organisme qui a vocation à faire du lobbying politique comme peut le faire par exemple le CRIF en France, hein, il le fait bien, comme l'UEJF pour l'antisémitisme auprès des étudiants. On subit, j'allais dire, un petit peu comme tout le monde, évidemment,
oui.
Mais c'est pas notre rôle de mettre des moyens, j'allais dire, les gens qui nous font des dons au CRNAESOD, c'est très clairement pour aider les victimes du terrorisme. C'est pas pour financer des actions de lobbying, contre l'antisémitisme. C'est pas le rôle premier du CRNAESOD, en fait. Et du coup, on essaye d'être, même si des fois on a très envie pour répondre, de mettre des moyens et de répondre, mais on essaye de rester vraiment extrêmement focusé, extrêmement concret dans ce qu'on sait faire, ce qu'on sait bien faire, et on estime qu'on est sans doute peut-être les plus efficaces parmi toutes les associations qui peuvent exister pour aider ces victimes du terrorisme en Israël, pour participer à la reconstruction, pour aider à réduire cette fracture sociale au sens large. Ça, on sait le faire, on sait bien le faire, on sait que chaque euro qu'on reçoit va être bien dépensé.
Alors, justement, alors déjà, vous pouvez nous expliquer peut-être les intérêts fiscaux aujourd'hui de donner au Keren Hayasod, et puis comment donner, tout simplement.
Oui, c'est bien de finir avec ça, merci. Me donner cette opportunité. Mais effectivement, vous l'avez bien compris, et c'est ce qu'on dit, notre travail, c'est ça. Notre travail, c'est de transmettre à la diaspora, en ce qui concerne la CRNAESOD française, à la diaspora française, ces besoins énormes qui existent en Israël aujourd'hui. On l'a dit, pour aider les victimes, on l'a dit aussi, parce que l'effort de reconstruction va être énorme. Le Keren Hayesod en particulier a pris en charge la responsabilité de reconstruire le kibboutz de Be'eri. Donc on s'est engagé vis-à-vis du conseil régional, vis-à-vis du conseil municipal et vis-à-vis des organismes du kibboutz. Et donc tout l'argent qui va être levé en France, je pense, sur les deux prochaines années, pourra être affecté, à moins que les gens, bien sûr, n'en décident autrement et souhaitent soutenir une autre cause particulière, mais aux victimes du terrorisme et à la reconstruction du kibboutz. Donc, pour ce faire, effectivement, le Keren Hayesod est une association reconnue en France aussi, évidemment, et donc qui peut émettre des CERFAs, ce qui veut dire que 100 euros donnés, ben, coûtent 35 euros, puisqu'il y a 65% qui sont déductibles. Et en particulier dans cette période où on s'approche de l'IFI, donc de l'impôt sur la fortune immobilière, pour ceux qui sont concernés, eh bien nous pouvons, là aussi, nous sommes agréés pour recueillir des fonds de l'IFI avec une déduction qui va jusqu'à 75% cette fois, non pas 64 mais 75, et ça peut se faire en ligne, tout simplement, sur keren-hayesod, HAYE2SOD.fr, keren-hayesod.fr, et en ligne, vous pouvez faire le don, que ce soit pour l'IFI, que ce soit sur les impôts normaux, avec la déduction qui va avec, et montrer ainsi à ce peuple israélien formidable que vous aussi, vous êtes à leur côté, que vous aussi, vous êtes prêt à les aider, que vous aussi, vous faites des efforts, parce que c'est un effort, et qu'on est très sollicité pour les soutenir. Et je dirais que c'est ça qui donne un sens à ce fameux Am Israël Hay qu'on entend et qu'on voit si souvent ces derniers temps.
Merci Dan Serfati. Donc je rappelle, vous êtes coprésident du Keren Hayesod France, et puis évidemment un grand merci également pour vos actions, votre énergie et pour votre engagement à côté du peuple israélien. Merci à vous.
Merci beaucoup.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.